Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins parlent tous les jours avec l'accent cohénien en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Pierre Follier, Antoine Ravon et Tristan Grenassia, à la réalisation d'Inondations Déluviennes, Nicolas Berger, à la lecture Country, Georges Kless, avec aujourd'hui à la prise de son un évadé, Johan Richard Dufour. À 10h51, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le dernier livre de Bernard Andrieux qui porte sur les arts immersifs, Donner le vertige, un livre qui paraît aux éditions Liber. Heureux qui, comme Ulysse, devient chanteur à succès en enregistrant une chanson par hasard pour un producteur non-voyant en chemin vers un trésor. Après l'Ulysse de James Joyce, lundi, l'Ulysse d'Homère et de Giono, mardi, et l'Ulysse de Dante, hier, mercredi, quatrième et dernière étape aujourd'hui de notre odyssée qui s'achève en terre d'Amérique, derrière la caméra des frères Cohen. Compte-moi, muse, l'homme des mille détours, qui tant et tant erra quand il eut saccagé la sainte cité de Troie, qui de tant d'humains vit les villes et connut les pensées, et sur mer, tant de souffrances ressentit dans le fond de son cœur, pendant qu'il assurait sa vie et le retour de ses compagnons. Il ne les sauva pas pour autant, ses compagnons, malgré son désir. Leur propre égarement causa leur perte. Quels enfants! Ils prirent des vaches du soleil Hyperion, qu'ils mangèrent toutes, et le soleil leur ôta le jour du retour. À nous aussi, déesse, fille de Zeus, de cette histoire, fais-nous quelques récits. In constant sorrow. Bonjour Julie Assouli.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance.
Merci.
Vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à l'université d'Artois et vous êtes l'auteur d'un excellent ouvrage consacré aux frères Cohen, l'Amérique des frères Cohen, qu'on trouve aux éditions du CNRS. Et c'est donc avec vous que nous allons terminer cette semaine consacrée à Ulysse. Nous sommes enfin arrivés à Ithaca, c'est-à-dire aux États-Unis. Et d'ailleurs, justement, alors je vous pose la question la plus importante en premier. Il y a eu beaucoup de débats, y compris dans les couloirs de la radio. Est-ce que le film des frères Cohen, Oh Brother, est une adaptation ou non de l'Odyssée d'Homère?
On peut dire que c'est une adaptation libre de l'Odyssée d'Homère. Les frères Cohen eux-mêmes ont dit, citent dans leur premier plan, dans le premier plan de leur film, l'extrait que vous avez lu vous-même.
Qui ouvre le premier chant de l'Odyssée, en réalité.
Voilà. Et donc oui, ils revendiquent s'être inspirés librement de l'Odyssée d'Homère. Il s'agit après beaucoup plus d'une histoire de l'Amérique des années 30 que de revisiter... pas après pas, l'Odyssée d'Homère. Donc, ils vont prendre un grand nombre de libertés. Ils vont jouer sur différents niveaux historiques, sur l'histoire des États-Unis, le folklore américain et sur ces épisodes de l'Odyssée.
Dès le début du film, il y a une filiation directe. Ils disent que c'est un film librement adapté d'Homère. Et si on regarde le film précisément, on voit qu'il y a de nombreux clins d'œil aux aventures qui se passent dans l'Odyssée. Il y a Tirésias, qui est devenu un homme noir. On a Ulysse, qui est quand même le prénom du personnage principal, qui est un évadé de prison. Pénélope, sa femme, qui est finalement divorcée. Le Cyclope, qui devient une espèce de bonimenteur psychopathe, adepte du Ku Klux Klan. Les sirènes. Le shérif Coulet, qui est une sorte de Poséidon. On multiplie comme ça les références directes aux péripéties de l'Odyssée. lycée.
Oui, et les frères Coen revendiquent leur lien à la littérature. Hein. Ce sont des réalisateurs qui sont très littéraires, qui sont férus de littérature américaine et classique, et qui ont déjà montré dans leur filmographie, y compris dans Miller's Crossing, par exemple, leur volonté de faire découvrir la littérature américaine et la littérature classique à leurs spectateurs. Donc, Miller's Crossing, par exemple, était, d'après eux, librement inspiré de deux romans de Dashiell Hammett, donc La clé de verre et La moisson du sang, sans pour autant qu'ils aient cité au générique ces deux œuvres littéraires. Donc, ils ont coutume d'injecter un certain nombre de références littéraires dans leurs films sans pour autant faire une adaptation très fidèle. Et c'est ce qui se passe avec l'Odyssée dans Oh Brother. Hein, ils ne vont pas revendiquer une adaptation fidèle, mais plutôt une adaptation libre, c'est-à-dire qu'ils vont montrer comment l'histoire des États-Unis est également une épopée et comment les Américains, malgré leur jeune histoire, ont des références aussi passionnantes et aussi... aussi respectable que l'Odyssée.
C'est ça, en fait, ce ne serait pas pour rendre justice à ce film, y compris à partir du prisme d'Ulysse. L'idée n'est pas de voir comment ils auraient adapté l'Odyssée d'Homère au sein de leur film et d'un film américain, mais de voir comment ils transposent les problématiques mythologiques antiques à des problématiques mythologiques proprement américaines. Et c'est là où ça devient extrêmement fécond que de faire un parallèle entre les deux.
Oui, bien sûr. Et l'époque du New Deal, donc les années 30, c'est à l'époque de Roosevelt, c'est à l'époque d'un nouveau départ après la Grande Dépression. Et donc, repartir à zéro, retourner chez soi, retrouver un environnement familier, c'est ce que fait Ulysse dans l'Odyssée, c'est ce que souhaite faire Ulysse dans l'Odyssée, et c'est ce que fait Roosevelt dans l'histoire des États-Unis. Finalement, il veut que l'Amérique reparte sur des bases saines. Et donc,
Parce que le film se passe dans les années 30. Hein.
Oui, ce film se passe dans les années 30 et se passe dans le sud des États-Unis, donc dans le Mississippi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les frères Coen se sont intéressés à vraiment une ère géographique et une ère historique très, très particulière dans l'histoire des États-Unis. Et les problématiques qui vont sous-tendre Oh Brother, ce sont des problématiques raciales, des problématiques politiques et des problématiques artistiques également, avec la musique bluegrass qui sont particulières au sud des États-Unis, qui ne vont pas se trouver dans la totalité du territoire, mais bien centralisé dans le sud des États-Unis et dans le Mississippi.
Alors, un premier jeu avec la référence homérienne se situe au tout début du film, puisque les deux Odyssées, celle d'Homère et celle des frères Coen, ont pour en commun d'être des formes d'errance, mais des errances qui sont placées sous le sceau d'une certaine prophétie. Et c'est la personne de Tirésias qui énonce cette prophétie au chant 11 de l'Odyssée de Homère. Et c'est un des personnages que l'on rencontre tout de suite dans Oh Brother, qui est un noir qui manipule une espèce de chariot sur des rails de chemin de fer. On va les écouter bout à bout pour voir en quel sens les frères Coen s'amusent vraiment de cette référence.
Pourquoi donc, malheureux, abandonner ainsi la clarté du soleil et venir voir les morts en ce lieu sans douceur? Allons, écarte-toi de la fosse, détourne la pointe de ton glaive, que je boive le sang et te dise le vrai. C'est le retour plus doux que le miel, noble Ulysse, que tu veux obtenir. Mais un dieu doit encore te le rendre pénible. Et pourtant il se peut qu'à travers tous les maux vous arriviez au terme, si tu sais consentir à maîtriser ton cœur et celui de tes gens. Aussitôt qu'échappé à la mer violette, ton solide vaisseau vous mettra sur les bords de l'île du Trident. Vous trouverez paissant les vaches du soleil et ses grasses brebis. C'est le Dieu qui voit tout, le Dieu qui tout entend. Respecte ces troupeaux, ne songe qu'au retour, et je crois qu'en Ithaque, à travers tous les maux, vous rentrerez encore. Mais je te garantis, si vous les maltraitez, que c'est fini de ton navire et de tes gens. Tu pourrais t'en tirer et revenir, mais quand et dans quelle misère? Tous tes hommes perdus sur un vaisseau d'emprunt, et pour trouver encore le malheur au logis. Il faudrait repartir avec ta bonne rame à l'épaule et marcher tant et tant qu'à la fin tu rencontres des gens qui ignorent la mer.
Mind if we join you, old-timer?
Johnny, my son. John.
You work for the railroad, Grandpa?
I work for no man.
Got a name, do you?
I have no name.
Well, that right there may be the reason you've had difficulty finding gainful employment. You see, in the mart of competitive commerce...
You seek a great fortune. You three who are now in chains, you will find a fortune. Though it will not be the fortune you seek. But first you must travel a long and difficult road. A road fraught with peril. You shall see things wonderful to tell. You shall see a cow on the roof of a cotton house.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Vendrette.
Julie Assouli, on entend les références directes hein, avec cette espèce de monologue du Tirésias noir et non-voyant qui ouvre les frères Coen, la référence à l'errance évidemment, mais aussi celle aux vaches, on l'avait entendu dans la bouche du vrai Tirésias, celui de mer, c'est-à-dire la bouche de Georges Clés qui interprétait le texte ici. Et pourtant, on l'a dit, c'est pas une simple transposition, c'est-à-dire que dans ce que dit Tirésias, dans le Tirésias des frères Coen, il annonce aussi ce qui va se passer, qui n'est pas vraiment une errance en réalité. Il cherche quelque chose.
Oui, et ce qui est extrêmement intéressant dans ce passage, c'est non seulement d'avoir choisi un personnage noir pour interpréter Tirésias, qui est un des personnages phares de l'Odyssée, hein, qui connaît l'avenir, qui est un personnage omniscient. C'est un pied de nez à ce qui se passait dans les années 30 dans le sud des États-Unis. Hein, choisir de donner tant d'importance à un personnage noir n'était pas si fréquent que ça. Donc, c'est un premier clin d'œil des frères Coen. Un deuxième clin d'œil, c'est le discours du personnage donc d'Everett, interprété par George Clooney, qui va commencer à analyser la situation de Tirésias d'un point de vue commercial, un peu d'un point de vue presque du point de vue d'un philosophe de comptoir, hein, qui va lui dire, bon, tu n'as pas de nom, c'est peut-être pour ça que tu as du mal à trouver du travail. Donc,
oui, parce qu'au début de l'extrait, il demande comment il s'appelle et dit, je n'ai pas de nom, ce qui est un clin d'œil à Ulysse qui dit, mon nom est personne. Et pour
exactement,
se
et donc là, les frères Coen jouent un peu sur la double lecture, sur la lecture New Deal et la lecture de l'Odyssée. Hein. Le New Deal était la période où le taux de chômage était le plus élevé dans l'histoire des États-Unis. Et donc, de façon très basique, le personnage d'Everett va dire à ce Tirésias noir que bon, il n'est pas étonné qu'il ne trouve pas d'emploi si il n'a pas de nom. Donc c'est une façon un peu de montrer à quel point on peut traiter l'Odyssée d'Homère sur le ton de la dérision. Et finalement, cette adaptation, c'est un pastiche, hein, c'est un pastiche de l'Odyssée. Les frères Coen vont traiter les thèmes abordés par l'Odyssée en les retransposant dans le New Deal et en plus de ça, en les traitant sur le ton de la dérision.
Mais est-ce que c'est simplement un pastiche? Parce que finalement, ce que dit le personnage de Tirésias en début du film est assez juste par rapport à la prophétie qu'il énonce semble donner une direction au film. Et au lieu que celui-ci donne simplement à montrer des personnages évadés qui vont essayer de cambrioler des endroits pour gagner de l'argent, pour essayer d'avancer et chercher simplement un trésor, eh bien ça donne une certaine profondeur à cette odyssée au fond.
Oui, il rehausse, le personnage de Tirésias va rehausser le destin des trois personnages. Mais ces trois personnages sont représentés par les frères Coen comme les trois Stooges, par exemple, ou comme les trois compères du magicien d'Oz, hein, ou comme les Marx Brothers. Donc ce sont des personnages qui sont comiques, c'est un trio comique. Et donc tout l'intérêt du film est de replacer ce trio comique dans une aventure épique. Et donc oui, bien sûr, le personnage de Tirésias rappelle cette aventure peut être une aventure épique, mais les frères Coen rappellent constamment qu'il s'agit d'une comédie. Et finalement, ça explique aussi beaucoup le titre du film. Le titre du film, Oh Brother, Where Art Thou, c'est un titre de film qui était présent dans un film des années 40, fin de 1941, qui a été réalisé par Preston Sturges et qui s'appelle Sullivan's Travels. Et dans Sullivan's Travels, un réalisateur à succès décide de se lancer dans la réalisation d'un film conscient, donc d'un film qui traitera du destin des pauvres vagabonds dans les États-Unis de cette époque. Et donc le personnage, ce réalisateur, décide de se déguiser en vagabond et de partir sur les routes. Donc c'est pour se mettre au contact des clochards, des vagabonds, des mendiants. Et il finit par se faire emprisonner. Et donc le film, ce film-là, qu'il réalise en immersion dans le monde des vagabonds, se nomme « Oh Brother, Where Art Thou ?» qui est le titre du film de frères Coen. Alors, ce qui est amusant, c'est que le film de Preston Sturges s'intitule Sullivan's Travels, qui est une autre référence littéraire à Gulliver's Travels, bien sûr, de Jonathan Swift. Et donc, on est en face d'un objet qui est un palimpseste infini. Donc, on part de Gulliver's Travels, on arrive à Sullivan's Travels, pour arriver ensuite au film des frères Coen, qui est lui-même une adaptation de l'Odyssée d'Homère. Donc, c'est, les références en fait, intertextuelles sont très profondes.
Et les frères Coen s'amusent beaucoup d'ailleurs de ces références-là. De manière assez provocante, ils auraient dit eux-mêmes, donc les frères Coen, Joel et Ethan, qu'ils n'avaient jamais lu Homère, l'Odyssée de Homère, et qu'en réalité cette adaptation se basait sur un autre film de Camerini, hein, qui est un péplum avec Kirk Douglas, qui donne à voir l'Odyssée, mais dans son caractère seulement, disons, aventureux. Hein. C'est une succession d'aventures et de péripéties qui arrivent à Ulysse. Et c'est comme si les frères Coen, qui savent très bien de quoi ils parlent, et qui sans cesse dans leur film mettent en scène cette confrontation entre un savoir littéraire, une connaissance élitiste et une connaissance plus populaire, eux-mêmes, y compris dans la vraie vie, jouaient avec ça et se refusaient toute référence élitiste, alors que de toute évidence, ils savent très bien de quoi ils parlent.
Oui, bien sûr, et ils s'amusent beaucoup à donner des fausses pistes à leurs spectateurs, à donner des fausses pistes également aux journalistes qui leur posent des questions très précises sur leurs films. Ils ne veulent pas divulguer leurs secrets, les frères Coen. Hein, et ils ont dit effectivement qu'ils avaient adapté Camerini, le film de Camerini de 1954, donc Ulysse, avec Kirk Douglas. Mais Kirk Douglas est un anti-Everett. Hein. Kirk Douglas, dans le péplum, est un personnage très fort. Et donc, il ne met pas du tout en valeur le côté malicieux ou le côté...
Oui, parce que Everett, dans les frères Coen, est obsédé par ses cheveux, par le gel qu'il met dans ses cheveux.
Voilà.
Il est un intellectuel un peu précieux.
Donc oui, finalement, le film de Camerini va plutôt tenter à mettre en relief les codes du film hollywoodien des années 50. Hein, c'est-à-dire que le héros de Péplum devait être un homme fort qui portait bien le costume de cuir. Et donc, dans les frères Coen font complètement l'inverse puisqu'ils vont... quasiment rendre George Clooney méconnaissable en l'affublant d'un costume déchiré et mal rasé, avec un accent à couper au couteau. Donc, ils ne mettent pas du tout en valeur la star hollywoodienne dans ce film-là, contrairement à ce que fait Camerini avec Kirk Douglas. Donc, s'ils prétendent avoir adapté Camerini, c'est également une blague, hein, c'est un trait d'humour de leur part. Hein.
Alors un trait d'humour qui pourtant va très loin, on va écouter bout à bout d'abord un extrait de Camerini, donc l'Ulysse, qui date de 1954, le fameux extrait des sirènes, et qui sera suivi de la même scène, mais alors cette fois-ci au sein des frères Coen, Oh Brother, avec une parodie, alors là aussi vous allez nous expliquer de quoi il retourne, puisque tout d'un coup surgit une grenouille. Écoutez.
Wanda! Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons, Ulysse, fuyons.
Ne restons pas là, Ulysse.
Ne perdons pas de temps. Vite, de la cire. Tous les hommes doivent en mettre. On les empêche de regarder de tous les côtés. Ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. On leur dise que c'est une question de vie ou de mort. Allez,
allez.
Go to sleep, you little baby. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Go to sleep.
How to do, ladies? Baby. Name of Pete.
Go to sleep, you little baby. Come lay your bones on the alabaster stones and be my.
Pas sûr que ce soit...
Bien sûr que c'est Pete, regarde-le bien. Faut qu'on trouve une espèce de sorcier pour le retransformer.
On ne sort pas une grenouille comme ça dans un grand restaurant. Tu vas couper l'appétit aux gens.
Hé, je trouve que c'est pas bien de l'enfermer dans une boîte comme si on avait honte de lui.
Oui, si c'est Pete, j'ai vraiment honte de lui. Mais t'as vu qu'il n'a que ce qu'il mérite. Forniquer avec une créature de Babylone... Ces choses-là n'arrivent pas sans raison, Delmar. C'est une sorte de sanction, rapport à son caractère.
Nous aussi, on était partis pour forniquer.
Alors la rupture de ton est flagrante entre les deux, Julia Assouli. Donc d'un côté Camerini, on a un ton très pompeux, bah, c'est un péplum, hein, premier degré, l'emphase, les sirènes, il faut qu'on se protège de leur chant. Puis de l'autre, alors déjà les sirènes, elles chantent un gospel magnifique, on a envie d'écouter en boucle nous-mêmes. Le chant est pris au sérieux et puis, Pete, un des personnages, se fait transformer en grenouille comme une parodie de conte de fées.
Oui, Oh Brother, c'est un film musical hein, qui va vraiment mettre en avant cette musique bluegrass qui est très particulière au sud des États-Unis. Et donc l'intervention des sirènes est un prétexte pour présenter un autre standard de la musique bluegrass, de la musique folk américaine qui est Go to Sleep, Little Baby. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est le fait d'avoir regroupé plusieurs épisodes, plusieurs passages de l'Odyssée dans une seule scène. Donc dans cette scène des sirènes, on retrouve donc le passage, le sixième chant de l'Odyssée où Nausicaa, la fille du roi Phéacien, va laver son linge à la rivière. Donc hein, ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage, c'est le dixième chant au cours duquel Circé transforme les camarades d'Ulysse en crapauds, en cochons.
Justement, en cochons.
Et donc
cochon,
les frères Cohen vont changer cela en crapauds. Et le troisième passage, ce sera le douzième chant où c'est l'épisode que vous avez passé de Camerini, là, hein, où Ulysse et ses comparses se font prendre au piège par le chant des sirènes. Donc on a trois passages différents qui sont regroupés en un. Et au lieu de mettre en avance l'épopée méditerranéenne, comme c'est le cas dans le poème d'Homère, on va tout recentrer autour du fleuve. Et ce qui est important aux États-Unis, c'est le fleuve Mississippi, donc, hein, qui et ses crues. Qui rythmait vraiment la vie dans cet état-là. Ce fleuve va prendre toute son importance au moment où la vallée du Tennessee est inondée un petit peu plus tard dans le film. Donc les sirènes sont des créatures qui sortent du fleuve hein, et non plus de la mer. Et le fleuve sera aussi la cause du déluge et de l'inondation de la vallée. Donc tout au long du film, on a cette importance du fleuve Mississippi qui fait penser aussi beaucoup du coup à Tom Sawyer et à Mark Twain. Hein. Donc les frères Cohen ne vont pas seulement adapter hein, le récit, enfin le poème d'Homère, mais vont aussi réinvestir des sources littéraires américaines comme Mark Twain, Huckleberry Finn et Tom Sawyer.
Et c'est dans le fleuve aussi que peu de temps avant la scène qu'on a donné à entendre, les trois personnages avaient assisté à une session de baptême. Et l'un d'entre eux d'ailleurs était allé se faire baptiser justement dans ce fleuve, qui est un clin d'œil là aussi, une référence directe à la scène des lotophages dans l'Odyssée de Homère.
Oui, alors le fait d'avoir rapproché ces baptêmes dans la rivière, cette scène de baptême dans la rivière au lotophage, c'est un peu une façon de dire que la religion prend parfois des proportions un peu démesurées aux États-Unis et particulièrement dans le sud des États-Unis. Donc les deux personnages, puisque Everett se dissocie un peu des deux autres, sont persuadés de pouvoir obtenir une rédemption grâce à cette scène de baptême, grâce à ce baptême dans la rivière, cette purification par l'eau de la rivière. Et au final, ce qui est assez amusant, c'est que lors de la scène suivante, on les voit prendre part à un casse avec Babyface Nelson et donc se livrer à toutes sortes d'activités illégales. Donc ils vont être sauvés pour mieux repartir vers l'illégalité.
Et ça, c'est une transposition qui est vraiment radicale chez les frères Cohen, à savoir cette question du baptême et donc du christianisme qui est présente hein, tout le long du film, notamment avec un des personnages, le shérif Cooley, qui veut les emprisonner et qui est présent comme étant une forme de diable. Là, pour le coup, c'est la présence d'un élément religieux et donc extrêmement moralisateur qui était complètement absente de l'Odyssée de Homère. Et c'est ce qui montre que les frères Cohen, eux, adaptent à leur époque, y compris avec les problèmes propres inhérents à leur époque, celui des religions, une Odyssée qui, sans cela, finalement, les dieux s'énervent dans l'Odyssée. Mais déjà, c'est des dieux au pluriel et c'est pas pour des raisons morales, loin de là. Alors que là, il y a cette morale qui est complètement tournée en dérision avec le baptême et les anges d'un côté et le méchant qui est le diable de l'autre.
Oui, alors ce personnage de Crowley, hein, c'est à la fois le diable de la chrétienté et il peut aussi être une représentation donc soit d'Hadès dans l'Odyssée avec son Cerbère en laisse, soit de Poséidon.
Ouais.
Donc les frères Cohen ont choisi d'intégrer cette problématique qui est typique du sud des États-Unis, la problématique de la religion, pour faire un un lien entre la colère des dieux et la colère divine de liée à la chrétienté. Après, effectivement, le personnage de d'Everett, le personnage d'Ulysse, est un sceptique. Hein, pendant tout le film, il doute du bien fondé des actions de ses deux acolytes. Il doute de leur foi aveugle en Dieu. Et donc, on a bien sûr cette relation idéologique entre les deux clans. Hein, le clan du sceptique qui est Ulysse et des deux autres qui vont être des Américains moyens, entre guillemets, qui croient bêtement, entre guillemets, en Dieu, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à se faire une opinion par eux-mêmes, hein, qui vont avoir une foi aveugle.
How you doing, son? Name's Everett. These two soggy sons of bitches are Pete and Delmer. Keep your fingers away from Pete's mouth. He ain't had nothing to eat for 13 years, except prison food, gopher, and a little greasy horse.
Thank you for the lift, sir. My name's Tommy. Tommy Johnson.
How you doing, Tommy?
Dis donc, question autochtone, on peut pas dire que ça grouille, hein, dans le coin. Qu'est-ce que tu faisais planter là?
Il fallait que je me trouve à ce croisement hier à minuit pour vendre mon âme au diable.
Ça alors, le monde est petit, spirituellement parlant. Pete et Delmar viennent d'être baptisés et sauvés. Il n'y a plus que moi qui ne suis pas affilié.
Ne plaisante pas avec ça, Everett.
Et qu'est-ce qu'il t'a donné en échange, le diable?
Il m'a appris à bien jouer de cette guitare.
Oh non! C'est pour ça que t'as vendu ton âme au démon?
Je m'en servais pas.
Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait Satan.
Eh bien, il existe toute une tripotée de diablotins et de démons, Pete. Mais le grand Satan est rouge, couvert d'écailles, il est armé d'une fourche et il a une queue à deux points.
Ah non. Non, monsieur. Il est blanc. Aussi blanc que vous. Il a des yeux vides et une grosse voix caverneuse. Et il est toujours accompagné d'un gros chien enragé. Oui, monsieur.
Et il t'a dit d'aller à Tishomingo?
Non, monsieur. Ça, c'est moi qui ai eu l'idée. Il y aurait un homme dans le coin. Il paraît qu'il paye les gens pour chanter. Il te fait chanter dans une boîte de conserve. Et si on chante bien, il paye encore plus.
Tishomingo, hein? Combien il paye?
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, c'est la quatrième et dernière étape de notre odyssée cette semaine, puisque chaque jour nous avons envisagé une figure différente de du fameux Ulysse d'Homère. Et aujourd'hui, c'est de l'Ulysse des frères Cohen que nous parlons à partir du film « Oh Brother, Where Art Thou ?», un film qu'il a de 2000, en compagnie de Julia Souli, qui est maître de conférence en civilisation américaine à l'Université d'Artois et l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'Amérique des frères Cohen » qu'on trouve aux éditions du CNRS.
Everybody pass me by. This song's going down, boy. Don't go catch me here.
Se lie et tout se retrouve dans ce film, Julia Souli. Là, nous sommes en train d'écouter une chanson de Robert Johnson, dont est inspiré le personnage de Tommy, qui vient d'entrer dans l'émission. On a entendu un extrait, un Crossroad Blues. Et justement, c'est à la croisée des chemins et des routes que se passent les différentes rencontres avec Tommy, ce joueur de guitare noir, qui leur raconte qu'il a vu le diable en personne, qui ne ressemble pas du tout à ce que Ulysse Everett est en train de lui dire. Et puis finalement, l'extrait se termine, il lui dit « Bah oui, là, je connais quelqu'un qui donne de l'argent, si on va chanter, hop, ils se mettent à chanter, ils vont enregistrer une chanson qui va devenir un tube. » Mais comme ce sont des rescapés de la justice, personne ne les connaît, ils se cachent, donc ils ne savent pas à quel point ils sont connus. On passe du diable à la chanson, finalement, l'air de rien. et par, avec ces personnages qui ne vont pas vraiment à un endroit précis. On est vraiment dans l'errance.
Oui, alors ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez passé, d'abord, c'est à quel point le personnage d'Everett, qui prétend être le plus éclairé des trois, a finalement la vision la plus éculée de ce qu'est le diable. Hein, pour lui, un personnage avec une queue fourchue. Et donc, finalement, c'est Tommy hein, qui lui donne une description beaucoup plus précise du diable. Et le diable, donc, est le shérif Cooley. Et ce shérif est un personnage errant, comme on en rencontre beaucoup dans les films des frères Coen. Hein. Et la plupart du temps, les personnages errants dans les films des frères Coen sont liés à une menace, sont des personnages liés au gothique, liés aux personnages qui parcourent les routes et qui représentent une menace. Donc, on a divers exemples hein, de ce personnage-là dès les premiers films des frères Coen. Donc dans 100%, par exemple, vous avez le personnage de Visser qui est le détective privé, donc on ne connaît pas du tout la vie, l'origine, qui n'apparaît que dans sa voiture, qui semble suivre à la trace le personnage principal pour le piéger. Un autre exemple, donc là on fait plutôt référence au genre du film noir, un autre personnage errant dans Arizona Junior serait le personnage du motard de l'apocalypse qui là est carrément une représentation du diable, hein, de la même manière que le personnage de Cooley en est une dans Oh Brother et qui va circuler sur une moto à la recherche du héros High pour le livrer aux autorités. Donc c'est souvent des personnages de chasseurs de primes également. Comme on peut
No Country for Old Men.
Voilà,
dont
Shiger dans No Country for Old Men est un très très bon exemple. Donc voilà, ces personnages errants, finalement, ils viennent de plusieurs genres différents, hein, de tout un panel de genres du cinéma américain et sont réinvestis par les frères Coen dans leurs films. Et de la même manière que Cooley pourrait être un personnage gothique hein, qui se balade comme une menace dans Oh Brother.
Mais celui qu'il évoque dans l'extrait, justement, ce Tommy est tout aussi errant que lui. On le trouve au détour d'un carrefour, hop, il le met dans la voiture, il raconte cette histoire. Et finalement, l'errance n'est pas le signe simplement des personnages maléfiques, c'est le propre de ces personnages en général.
Alors dans Oh Brother est un film particulier où le thème principal du film est l'errance. Donc contrairement aux autres films des frères Coen qui vont utiliser ce personnage-là dans des genres complètement différents. Oh Brother est vraiment axé sur le thème du vagabondage et de l'errance, qui est un thème cher au film du New Deal, puisque lors de la Grande Dépression, beaucoup d'Américains ont dû migrer aux quatre coins des États-Unis à la recherche d'un emploi. Donc on voit très bien dans Oh Brother à quel point les personnages sont mobiles et doivent se déplacer. Donc on y a par exemple au tout début du film, vous avez un passage, enfin une scène qui se situe dans un train, où vous avez quatre vieillards assis sur des sacs de farine, Papi O'Daniel, qui quittent leur région pour aller chercher un emploi. Et donc finalement, les trois héros vont rencontrer tout un tas de personnages qui errent sur le territoire américain, souvent à la recherche d'un emploi ou à la recherche d'argent. Et c'est le cas du personnage de Tommy Johnson, qui est donc un bluesman américain, dont la légende dit qu'il aurait vendu son âme au diable en échange de sa virtuosité à la guitare. Donc c'est là qu'on se rend compte à quel point les frères Coen vont faire un amalgame entre l'histoire des États-Unis, le New Deal, l'histoire du folklore américain, donc l'histoire de ce bluesman qui n'est pas avérée, bien sûr, et l'histoire littéraire qui est celle de l'Odyssée.
C'est ça, c'est qu'ils jouent entre l'histoire de leur pays et l'histoire, disons, même antique, l'histoire de l'Odyssée, et l'invention de l'histoire, la fabulation, puisque c'est quand même aussi ce qui caractérise Ulysse, qui passe son temps, chez Homère, qui passe son temps à raconter des histoires.
Oui,
et là, c'est ce qu'eux-mêmes font, alors que le personnage d'Ulysse, Ulysse Everett, donc interprété par George Clooney, lui est à l'inverse. Vous avez dit que c'était un sceptique, mais c'est aussi un sceptique qui fait la leçon, qui fait la morale et qui veut toujours apprendre aux autres de quoi il retourne, très scientifique et qui a souvent tort en fait.
Oui, complètement. Et ce personnage-là, du philosophe de comptoir dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment un philosophe qui fait partie de l'histoire des États-Unis, qu'on appelle le Cracker Barrel Yankee Philosopher, et qui est vraiment un donneur de leçons. Un bon exemple, c'est le personnage de Will Rogers, hein, qui est un cow-boy fantasy du cinéma américain, hein, qui jouait dans des films américains dans les années 30 et qui était un grand admirateur de Roosevelt et qui donc faisait des films pour donner aussi des leçons à ses spectateurs, pour leur dire comment se comporter en temps de crise, comment être à l'écoute de ses congénères, etc. Et c'est exactement ce que fait Ulysse. Il est sans arrêt en train de donner des leçons de vie à ces deux autres comparses. Et alors, ce personnage de philosophe de comptoir, donc de Cracker Barrel Philosopher, il est présent dans énormément de films des frères Coen, y compris dans The Big Lebowski, par exemple, où vous avez ce personnage de cowboy qui va commenter un peu ce qui se déroule pendant le film et qui semble en savoir plus que les autres et qui semble avoir un point de vue avisé sur les déroulements de l'histoire.
Alors si on avance un peu dans le film et on arrive presque à la fin et de l'émission et du film, on a cette confrontation entre Ulysse et ses deux comparses et le fameux shérif Cooley qui arrive à leur mettre la main dessus, qui veut les arrêter et eux-mêmes viennent d'apprendre qu'ils ont été graciés suite à un concours de circonstances assez savoureux. Et finalement cette confrontation va être annulée par une inondation, le fleuve, le revoilà, qui va déborder et recouvrir intégralement le paysage de cette eau, ce qui va être l'occasion pour Ulysse de donner un nouveau cours scientifique sur ce qui est en train de se passer. Mais là, on a à nouveau un amalgame entre des références homériennes, herculéennes également, et cette confrontation entre deux personnages, deux vagabonds qui s'opposent autour d'une même loi. Écoutez.
These two boys get to see the ancestral manse, the home where I spent so many a happy day in the bosom of my family. A refugium, if you will, with a mighty oak tree out front and a happy little tire swing on it.
Where's the happy little tire swing?
End of the road, boys.
No, wait a minute.
Après bien des détours d'un chemin sinueux,
voyons.
Voilà qu'il vous ramène en ces lieux.
Attendez, mais...
Vous avez échappé au destin, vous m'avez échappé, mais c'est terminé. Attachez-leur les mains.
Vous n'avez pas le droit. On a été graciés par le gouverneur. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
C'est passé en direct à la radio.
C'est vrai? On n'a pas la radio par chez nous.
C'est pas juste.
C'est contraire à la loi.
La loi? La loi est une institution humaine.
You got to go to the lonesome valley.
Yes, sir.
You.
C'est un miracle!
Ne dis pas de bêtises. Je vous ai dit qu'il devait inonder la vallée.
Non, c'est un miracle, je te dis.
On a imploré Dieu et il a eu pitié de nous.
Et voilà, ça n'a pas manqué. Une fois encore, les cutéreux nous montrent le peu de cas qu'ils font de l'intellect. Il y a une explication scientifique évidente à ce qui vient de se produire. La vérité, c'est qu'ils inondent la vallée pour électrifier tous les foyers de cet état. Eh oui, le sud est en train de changer. Bientôt, tout va marcher à l'électricité et tout le monde devra payer. Terminé le vieux baratin mystique, les superstitions et les pratiques rétrogrades. Bientôt, un monde nouveau va naître. Tout le monde sera relié à un fil connecté à un réseau. Exactement. Un véritable siècle des Lumières comme celui qu'il y a eu en France. Ce sera vraiment pas trop tôt.
Cet extrait est très riche, hein, Julie Assouli. Et beaucoup de choses d'ailleurs qu'on a déjà dites au cours de cette émission sont illustrées dans cet extrait. De nouvelles sont énoncées. D'abord, cette loi, cette phrase, bon lapsus, justement, le shérif dit « la loi est une institution humaine ». Comment faut-il l'entendre que lui-même se situe au-dessus des lois et du coup, il est comme ce dieu, ce Poséidon, hein, qui va venir punir les humains qui lui ont désobéi. ou au contraire comme un hors-la-loi, un déviant, un errant, même en tant que shérif, qui se moque bien de cette loi qui est humaine et donc lui-même se situe en dehors de ce cercle-là des humains.
Oui, je pense que les deux explications sont plausibles. Également, on peut y voir une référence à la corruption des services de police. Hein, à l'époque, dans le sud des États-Unis, dans les années 30, les lois étaient rarement respectées, hein, surtout quand il s'agissait des droits des prisonniers. Et là, il y a une référence évidente à un film de Mervyn LeRoy qui s'appelle I'm a Fugitive from a Chain Gang, qui raconte une erreur judiciaire dans les années 30. Et un personnage est victime d'une erreur judiciaire, ce qui montre bien que finalement, on ne peut pas faire confiance à la justice. Donc il y avait un certain nombre de films engagés pendant la période du New Deal qui racontaient ces erreurs judiciaires. Donc les frères Coen ne font pas seulement une adaptation de l'Odyssée d'Homère, ils vont aussi faire un commentaire sur le cinéma américain, sur l'histoire du cinéma américain. Il s'agit d'un métafilm, hein, Oh Brother, qui va reprendre un peu tout ce qui existait dans les années 30 comme genre de film, donc que ce soit les films sur le New Deal, les films qui commentent des épisodes sociaux ou économiques, et les films et les comédies, hein, du type de ce que faisait Preston Sturges. Donc il y a vraiment ce commentaire sur le cinéma américain dans Oh Brother. Ensuite, une fois de plus, on voit le personnage sceptique qui s'oppose aux deux autres, hein, qui veulent absolument croire en une force divine. Donc le shérif Cooley, il leur laisse le choix, hein, de croire à ce qu'ils veulent finalement, puisqu'il dit « bon, moi je suis au-dessus des lois ». Et puis finalement, une fois qu'ils auront été sauvés, une fois de plus, ils vont être, et on va leur laisser le choix de croire soit à l'explication rationnelle d'Everett, soit à une force divine. Bien sûr, cet épisode-là est une référence au New Deal, hein, à l'inondation de la vallée du Tennessee.
C'est l'État, en fait, hein, qui s'infiltre,
voilà,
par
donc
l'État
finalement,
fédéral.
Il y a effectivement une explication rationnelle. Hein, c'est l'État, donc c'est Roosevelt qui va, en 1933, faire voter le TVA, hein, le Tennessee Valley Authority, afin d'apporter, comme le dit Everett, l'électricité dans toute la vallée. Donc moderniser l'Amérique.
Et créer un nouveau monde, ce qui est quand même le projet américain au départ.
Voilà, et créer un nouveau monde et créer un nouveau départ, mais surtout un départ égal pour tous les Américains. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, dans les années 30, il y avait encore des États comme le Mississippi qui vivaient sans électricité, qui vivaient dans un dénuement total. Et d'autres, à côté de ça, d'autres endroits aux États-Unis, le Nord, des États-Unis, New York par exemple, qui faisait une course au gratte-ciel. Donc il y a vraiment cette volonté aussi des frères Coen de montrer à quel point les États-Unis étaient un pays inégal dans les années 30 et à quel point finalement cette épopée est un prétexte pour montrer l'état des États-Unis dans les années 30 et surtout la différence entre le Nord et le Sud, la différence entre les campagnes et les villes.
Et ça passe aussi par une insistance sur ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que vous appelez dans votre ouvrage, Julia Souli, le régionalisme. C'est-à-dire qu'on a laissé aussi beaucoup d'extraits au cours de cette émission en version originale pour entendre à quel point il y a comme un accent coénien, la façon dont Clooney parle avec l'accent du Sud en insistant énormément sur certains mots plus que d'autres. On a ce régionalisme-là qui tranche complètement avec le propos universel. Rien n'est plus universel, en tout cas occidental, que l'Odyssée de Homère. Mmh. Et là, on est au contraire ancré dans une certaine partie des États-Unis avec une certaine façon de parler.
Oui, tout à l'heure, je mentionnais Mark Twain. Donc Mark Twain, c'est le père du vernaculaire, hein, dans la littérature américaine. C'est le premier auteur américain qui va transposer l'accent noir américain dans ses écrits, qui va rester fidèle aux différents accents de l'Amérique. Et les frères Coen mettent un point d'honneur dans tous leurs films à respecter les régionalismes à travers la fidélité aux accents, qui parfois même peuvent paraître exagérés. Mais on se rend compte qu'il y a une diversité des accents aux États-Unis qui est infinie et que finalement, ce qu'on peut prendre pour de la parodie est souvent plus authentique que ce qu'on croit. Et finalement, cet accent-là, cet accent du Sud, se veut être authentique. Et même s'il prête à sourire ou à rire, il se veut être authentique. Et je pense que c'est important de regarder les films des frères Coen en version originale, principalement pour cette raison. Parce qu'on ne se rend pas compte en version française de l'importance des accents.
Et beaucoup de choses s'y jouent hein, dans ces accents-là. C'est parce qu'à la fois, on y entend ce qu'on a rapidement évoqué, cette opposition entre d'un côté une culture un peu élitiste, où il s'agirait de dominer verbalement les autres, et de l'autre, au contraire, un jeu avec la langue, une espèce d'uniformisation qui... soit au contraire une exclusion parce qu'il parle trop bizarrement, il ne fait pas vraiment partie de la majorité. Quoi.
Oui, et puis cette volonté de s'intéresser au régionalisme n'est pas uniquement, ne transparaît pas uniquement à travers les accents, le respect des accents ou des cultures locales, mais également à travers l'art. Et les frères Cohen font beaucoup appel à la peinture, et notamment à la peinture régionaliste de Thomas Hart Benton. Et alors, vous parliez tout à l'heure de Crossroads. Il y a un tableau de Benton hein, qui s'intitule Crossroads et qui fait référence au choix.
La croisée des chemins,
à la croisée des chemins, ouais. Voilà, au choix qu'ont les personnages. Et Benton est très intéressant à mon sens parce qu'il a aussi exploré la mythologie grecque. Il a fait il a réalisé un tableau qui s'intitule Achelous et Hercules, hein, qui vraiment reprend ce pouvoir du fleuve, hein, cette thématique du fleuve, et à travers un épisode mythologique, c'est-à-dire le combat entre Hercule et le fleuve Achelous, donc pour contrôler les crues. Et donc, il a fait déjà une transposition entre ce qui se passait dans le sud des États-Unis avec les crues du fleuve Missouri et ce qui avait eu lieu pendant les mythologies. Donc, il a fait un peu le même travail que les frères Cohen, qui adaptent la mythologie grecque aux problématiques américaines des années 30, mais à son époque, dans les années 40. Donc, il y a aussi... il serait difficile de vraiment vérifier si les frères Cohen se sont inspirés de Benton,
mais en tout cas,
il y a cette volonté de certains artistes américains de réconcilier la culture d'élite et la culture populaire, oui.
Et même ce rapport au tableau, à l'art pictural, on le voit chez les frères Cohen au sein de l'image cinématographique. En tout cas, dans ce film, il y a comme un filtre jaune qui vient donner une teinte particulière aux images, à la fois qui vient les vieillir et en même temps qui vient exprimer l'aridité même des paysages qu'ils sont en train de filmer.
Oui, ils ont été obligés d'utiliser un filtre jaune parce qu'à l'époque où ils ont tourné, il avait plu beaucoup et tout était beaucoup trop verdoyant. Et donc, ils voulaient aussi faire référence aux sécheresses hein, qui ont complètement dévasté les États du centre des États-Unis et du Sud. Donc, pour eux, la couleur verte était exclue. Donc, ils ont mis ce filtre jaune. Et ce filtre jaune, finalement, rapproche aussi les images des photographies de la Farm Security Administration. Donc, les photographies, par exemple, de Dorothea Lange, qui a vraiment documenté cette période de la dépression. De la Grande Dépression aux États-Unis, qui a été mandatée par Roosevelt. Donc Roosevelt avait envoyé des photographes dans les États du centre et du sud pour rendre compte de ce qui se déroulait, de la misère, justement de la migration forcée des paysans à cette époque-là. Et donc ce filtre jaune vraiment fait référence à ces photos de la Farm Security Administration.
Et alors toutes ces références historiques, culturelle dont on vient de parler, également sociologique des frères Cohen au sein de leur film, comment est-ce qu'on peut les comprendre par rapport à la dimension parodique et ironique qu'on a également évoquée ? Parce que d'un côté, ils ont l'air de se moquer d'une certaine culture et identité américaine, et de l'autre, au contraire, de par le jeu avec ses références, c'est comme s'ils proposaient une nouvelle version, une nouvelle identité américaine. Où est-ce qu'on peut les suivre ?
C'est assez compliqué, en fait, d'interpréter la démarche des frères Cohen, parce qu'ils ont toujours revendiqué ne pas avoir de parti pris idéologique. Ils ont toujours revendiqué de ne pas être des militants. Donc, c'est vrai qu'il y a certains articles ont été écrits sur O Brother, disant que c'est un film socially conscious, hein, mm-hmm. qui a une conscience sociale, et qui finalement ne répond pas du tout aux préoccupations des frères Cohen. Donc, à mon sens, ils revisitent l'histoire des États-Unis avec de la distance, sans pour autant véhiculer, de prendre de position politique ou se positionner d'un point de vue idéologique. C'est vraiment à mon sens, ils expriment leur intérêt pour l'histoire américaine, pour la culture américaine, pour les folklores américains.
On a beaucoup parlé d'errance au cours de cette émission, l'errance des personnages des frères Cohen, l'errance peut-être d'Ulysse, mais tout ce que vous venez de dire, Julia Sully, laisse penser que finalement, ce n'est pas tellement une errance qu'une forme de quête. D'ailleurs, les personnages sont en recherche d'un trésor et la réflexion sur l'identité américaine n'est pas du tout un vagabondage. Il y a vraiment la quête de quelque chose, d'un renouveau, d'un nouveau pays, d'une nouvelle identité.
Oui, vous avez complètement raison. Dans tous les films des frères Cohen, il y a la quête de l'American Way of Life, hein, il y a la quête de cette... De, de, de vraiment atteindre cette normalité américaine, cette norme américaine qui a été posée au fondement de l'Amérique. Hein. Et dans O Brothers, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la mention du pater familias. Hein. Son but ultime est de redevenir le chef de la famille, le père de famille. Et là, on retrouve vraiment des valeurs américaines fondamentales. Hein. Le rôle du chef de famille, du père de famille. Et tous les personnages des frères Cohen vont avoir cette quête de s'intégrer à l'American Way of Life. O Brother rappelle beaucoup Arizona Junior à cet égard. Hein. Arizona Junior, le personnage principal joué par Nicolas Cage, est un repris de justice qui aspire à une vie de famille, à fonder une famille et à devenir un pater familias.
Tout comme Ulysse qui finalement, en revenant à Ithaca, veut retrouver la couche de Pénélope et reconnaître son propre fils.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Merci beaucoup Julia Souli d'être venue nous parler des frères Cohen aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage L'Amérique des frères Cohen qu'on trouve aux éditions du CNRS.
Merci beaucoup.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie qui vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Quel est le livre au programme aujourd'hui ?
Eh ben, dans cette semaine esthétique, place aujourd'hui à l'esthétique au sens large du point de vue du corps, à l'occasion de la parution de Donner le vertige, les arts immersifs de Bernard Andrieux, paru aux éditions Libère. Rappelez-vous cette photo de 1932 où l'on peut voir 11 hommes qui prennent tranquillement leur repas sur une poutre, 69 étages au-dessus de Manhattan. Et bien devant cette photo, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des frissons, comme si l'on était soi-même à la place d'un de ces hommes. Cette sensation face au vide, on l'a tous déjà expérimentée. C'est la sensation du vertige qui prend dans le ventre, parcourt le dos et remonte jusqu'à la tête. Cette expérience où le corps se rappelle à nous d'une manière spécifique, ils n'auront pas le silence des organes comme avec la maladie, ils ouvre au contraire tout un nouveau champ sensoriel. Le vertige ne serait donc pas le signe d'une disparition, mais l'apparition au contraire d'une nouvelle forme de sensibilité. C'est en tout cas la thèse du philosophe Bernard Andrieux dans un ouvrage sur les arts immersifs paru aux éditions Libère. Alors les arts immersifs, c'est précisément ces arts de plonger en soi, de manière volontaire, quand on se donne soi-même le vertige en sautant en parachute par exemple, ou même en faisant du yoga, ou de manière involontaire quand le vertige nous étreint, sans qu'on s'y attende. entendent au détour d'une falaise, par exemple. Mais plus largement, le vertige apparaît plutôt ici comme l'expérience exemplaire d'une autre manière de prendre conscience de notre corps. Celle où le corps déborde notre conscience, échappe à notre maîtrise pour nous révéler un autre rapport entre le corps et l'esprit, pour nous révéler des sensations intimes. Bernard Andrieux, qui dit débuter avec cet ouvrage une philosophie de l'immersion corporelle, ouvre ainsi sur une nouvelle phénoménologie, non plus celle qui nous lie à des objets extérieurs, mais celle qui a lieu dans la profondeur du corps, de l'autre côté de la surface de la peau. Je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est « Donner le vertige, les arts immersifs », c'est de Bernard Andrieux et c'est paru aux éditions Libère.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir le philosophe David Lapoujade à propos de son dernier ouvrage, Deleuze, les mouvements aberrants, paru aux éditions de Minuit. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.